Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous au travers de ce long week-end pascal, puisque nous allons un peu partout dans le monde fêter la Pâque, malgré le contexte actuel. Et je trouvais cela pertinent de pouvoir nous repencher sur cette Pâque. Et pour ce faire, je vous encourage à pouvoir lire avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, du verset 1 à 27, mais nous ne lirons pas tous les versets. Alors, nous commençons néanmoins par le verset 1 et nous lisons ensemble, Exode chapitre 12, verset 1. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Allons un peu plus bas, au verset 23. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Et enfin, lisons 26 et 27, les versets 26 et 27. « Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. » Alors, au regard du passage que nous venons de lire, nous constatons que la fête de la Pâque a été instituée par qui ? Par Dieu lui-même. Pour que le peuple d'Israël se rappelle de quelle manière Dieu l'a puissamment délivré de l'esclavage en Égypte. En effet, Dieu a suscité pour le peuple d'Israël, pour son peuple, un libérateur du nom de Moïse, qui, vous le savez, à travers la manifestation de 10 plaies, à exercer les jugements de Dieu sur tout le pays d'Égypte. C'est donc la veille du jour de l'accomplissement de la dixième plaie infligée à tout le pays d'Égypte que la fête de la Pâque fut célébrée pour la première fois parmi les Juifs. Et comme nous l'avons lu, tous les détails de cette fête sont bien expliqués dans ce chapitre 12 du livre d'Exode que nous avons lu, évidemment en partie. Et je vous encourage à pouvoir, pourquoi pas, relire tout ce chapitre 12. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, la fête de la Pâque correspond avant tout à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais ces deux choses ne sont pas incompatibles, ce n'est pas un problème. Car finalement, en observant bien, nous constatons que le message que véhicule la fête de la Pâque vient se superposer finalement au message de l'évangile de Jésus. Il y a comme de flagrantes similitudes entre la fête de la Pâque et le message de l'Évangile. Et pour preuve, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui a déclaré dans sa première épître aux Corinthiens la vérité suivante, 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7, juste la deuxième partie du verset 7, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, deuxième partie de ce verset, c'est très court, mais ça en dit long, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Autrement dit, Christ, notre Pâque, a été offert en sacrifice. Ainsi, de la même manière qu'il a fallu sacrifier un agneau sans défaut pour chaque foyer hébreu du temps de Moïse, ceci afin de les sauver de l'ange destructeur, mais aussi afin de les délivrer de l'esclave, de l'esclavage en Égypte, de même, nous constatons Jésus, l'agneau de Dieu, sans défaut a été offert en sacrifice sur la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. En fait, finalement, l'institution de la Pâque fut comme une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre qu'il allait accomplir sur la croix bien plus tard. Et je voudrais vous le démontrer à travers quelques détails que nous avons lus dans notre texte d'introduction. Alors il faut y revenir à ce texte que nous avons lu en introduction. Et tout d'abord, parlons de la nature du sacrifice de la Pâque. Par exemple, au verset 3, nous avons lu « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra quoi ? Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Ainsi, donc, pour célébrer la fête de la Pâque, Dieu avait demandé à chaque famille d'Israélites de se choisir un agneau. Et de même, Jésus fut désigné prophétiquement par Jean le Baptiste, comme étant l'agneau de Dieu. On le voit à plusieurs reprises dès le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1 verset 29, je suppose, notre ami Jean-Baptiste, voyant le Seigneur Jésus passer, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Qui ôte le péché du monde. Et comme pour insister, il dira un peu plus bas au verset 36, Jean 1, verset 36, exactement la même chose. Voici l'agneau de Dieu. De son côté, le prophète Ésaïe rappela que Jésus fut conduit au supplice comme un agneau que l'on mène ou à la boucherie, parlant de ses souffrances qu'il allait connaître au travers de la croix. Et pour finir, Jean, sur l'île de Patmos, alors qu'il était exilé à cause de sa foi en Jésus, il voit une vision, un agneau immolé, mais qui est cette fois-ci au milieu du trône, et qui est digne de recevoir non seulement la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À Dieu soit toute la gloire. Et tous ces exemples, finalement, nous parlent d'une seule et même personne. Quelle est cette personne ? Jésus, et je précise, Jésus, l'agneau de Dieu. Voyez déjà ces similitudes ? Et puis, il y a aussi cet autre détail qui nous parle des caractéristiques de l'agneau de la Pâque. On le lit dans le verset 5, je reviens au texte d'introduction, Exode 12, verset 5. Il nous est dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ainsi, finalement, l'agneau était choisi le 10e jour du premier mois de l'année, et je précise de l'année du calendrier juif, c'est-à-dire le mois d'Abib, qui correspond au mois d'avril pour nous, mars-avril. Alors l'agneau était choisi le 10e jour du premier mois de l'année du calendrier juif avant d'être sacrifié le 14e jour de ce même mois. Et vous avez compris qu'il y a un laps de temps là. Il y a à peu près 4 jours et durant ce laps de temps, l'agneau était soigneusement examiné. Car nous l'avons lu et c'est là où je veux en venir avec vous, il devait être sans défaut. Et ça nous parle. De même Jésus avant d'être sacrifié sur la croix. A été plusieurs fois, j'ai envie de dire examiné, examiné par ses contemporains. Car lui aussi, en tant qu'agneau de Dieu, il devait être reconnu comme étant sans défaut. Et on le voit au travers des évangiles, Jésus à maintes reprises a été examiné comme examiné par tous les leaders des partis religieux de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens et également les sadducéens. Et tour à tour, les pharisiens comme les sadducéens ont essayé de coincer Jésus par des questions captieuses, des questions insidieuses quelquefois. Ils se sont même unis ensemble pour essayer de piéger le Seigneur Jésus. On le lit par exemple dans Matthieu au chapitre 22 et le verset 34 par exemple. Matthieu 22, verset 34, il nous est dit... Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Ils arrivaient même à essayer de s'unir pour essayer de coincer le Seigneur Jésus. Mais vous l'avez compris, Jésus a toujours été parfait à travers toutes les réponses qu'il leur accordait. Et conséquence à cela, on peut le lire toujours dans le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, au verset 46, cette fois-ci, il nous est dit « Nul ne put lui répondre un mot parlant du Seigneur Jésus ». Parce que Jésus, oui, bien gentiment répondait à toutes les questions, pièges qu'on pouvait lui poser, mais quelquefois, lui aussi posait des questions, et là, toutes les bouches étaient fermées. Et ce qui est plus beau, au verset 46, il nous est dit aussi « Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions ». Oui, Jésus a été examiné par les leaders des partis religieux, mais on peut dire aussi qu'il a été examiné par les autorités civiles de l'époque. Caïphe, le souverain sacrificateur, amena Jésus devant qui ? Devant Pilate, qui était le gouverneur romain de la Judée. Mais ce dernier, en examinant Jésus, l'agneau de Dieu, déclara à son tour à trois reprises que Jésus était innocent. Et je peux vous donner les références. Jean chapitre 8, le verset 38, où il est dit, et c'est Pilate qui parle, il dit « Je ne trouve aucun crime en lui ». Le chapitre suivant, Jean 19, verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Mais voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Et on regarde deux versets plus bas, Jean 19, verset 6, « Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Et Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. » Car moi, autrement dit, me concernant, je ne trouve point de crime en lui. Et finalement, à ce moment-là, sans le savoir, inconsciemment, Pilate a lui aussi confirmé aux oreilles de tous que Jésus, le Fils de Dieu, mais Jésus était réellement bien l'agneau sans défaut que l'humanité entière avait besoin pour sa délivrance. Amen. Autre détail de notre texte, notre texte d'introduction, Exode 12, qui pourrait nous démontrer que la Pâque est une préfiguration de l'œuvre que Jésus allait accomplir à la croix. En effet, il nous est également parlé du sang de l'agneau. Alors, on a lu tout à l'heure en introduction, je le relis, au Exode 12, versets 6 et 7, il nous est dit « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois ». Donc parlant bien sûr de l'agneau. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Un peu plus bas, au verset 23, on l'a lu également tout à l'heure, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Le mot Pâque est tiré d'un mot hébreu qui signifie passer outre ou passer par-dessus dans l'idée ou même dans le sens d'épargner. Et en effet, lors de la dixième et dernière plaie infligée à l'Égypte, c'est l'ange destructeur qui a exterminé tous les premiers-nés des hommes et des animaux qui se trouvaient sur toute l'Égypte. Mais ce même ange destructeur a, cette nuit-là, épargné tous les premiers-nés des familles du peuple d'Israël. Et ceci, grâce au sang de l'agneau qui avait été précédemment immolé, qui avait été aussi appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte de chaque maison du peuple d'Israël. Alors, c'est marrant, avant-hier, donc à la télé, ma famille et moi, nous avons regardé le film « Les Dix Commandements », peut-être l'avez-vous fait également. Et c'est un film que j'ai vu plus d'une fois, vous le comprenez bien. Et c'est ma fille, de 3 ans et demi, qui à un moment donné, en observant le moment où les enfants d'Israël ont appliqué le sang de l'agneau sacrifié sur les poteaux et le linteau de leur porte, elle s'était criée subitement « C'est le sang de Jésus ! C'est le sang de Jésus !» J'en ai un petit peu ri. Et vous l'avez compris, évidemment, à l'époque, ce n'était pas le sang de Jésus, mais elle n'était pas loin finalement de la vérité. Elle n'était pas loin de ce que je suis en train de vous expliquer. Car en fait, le sang appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte des maisons était encore à ce moment-là une préfiguration, j'ai envie de dire un avant-goût ou encore une annonciation du sang de Jésus qui allait couler sur la croix du calvaire beaucoup plus tard. Mais cette fois-ci, parlant du sang de Jésus, eh bien, il allait couler pour tout le genre humain, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tout le genre humain. Et finalement accordé aux croyants infiniment au-delà de ce que le peuple d'Israël a pu expérimenter ce fameux soir de la Pâque. En effet, mes amis, lorsque vous laissez le précieux sang de Jésus être appliqué sur la porte de votre cœur, c'est une expression, vous l'avez compris, alors vous expérimentez à ce moment-là la purification de vos péchés. La Bible dit, dans la première épître de Jean, au chapitre 1, et la deuxième partie du verset 7, il nous est dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La Bible déclare que le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun péché ni aucune souillure qui ne puisse résister à l'efficacité du sang de Jésus. Lorsque vous laissez le précieux sang de Jésus-Christ être appliqué sur votre vie, sur votre cœur, sur les poteaux et le linteau de la porte de votre cœur. Alors vous expérimentez également la pleine délivrance. Un autre passage que nous pourrions lire ensemble, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Nous lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Le mot grec qui a été traduit par le verbe « racheter » exprime ici l'idée d'être libéré grâce au paiement d'une rançon. Il exprime aussi l'idée d'être délivré, guéri de toutes sortes de mal, interne comme externe. Et Dieu seul sait comment ce monde est malade, comment ce monde a besoin d'être libéré, délivré de toutes sortes de maux. Jésus, notre grand libérateur, a donné sa propre vie, son sang coulé sur la croix il y a déjà plus de 2000 ans de cela, afin de nous délivrer du péché, mais aussi de nous délivrer de tous nos maux. Que Dieu soit béni. Lorsque vous laissez le précieux sang de Jésus être appliqué sur la porte de votre cœur, mes amis, vous expérimentez la protection de Dieu. On l'a lu également en introduction tout à l'heure dans le livre d'Exode au chapitre 12, bien sûr toujours au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Oui, le sang de Jésus est une véritable protection. Mais notons quand même que le verset nous dit que le sang doit servir de signe. Autrement dit, Dieu épargnera les maisons, Dieu épargnera les vies, les cœurs sur lesquels il voit le sang de l'agneau, le sang de son fils. Question, un bien qui pourrait nous interpeller encore ce matin, Dieu peut-il voir le sang de Jésus, son fils, sur les poteaux et le linteau de ton cœur? Mon ami, si ce n'est pas le cas, ne tarde plus, repens-toi de tes péchés et invite Jésus à venir régner sur ta vie, sur ton cœur. Il y a d'ailleurs un détail que nous n'avons pas lu en introduction tout à l'heure et que j'aimerais maintenant lire avec vous. C'est dans Exode chapitre 12, cette fois-ci le verset 11. Exode chapitre 12 et le verset 11. Et nous lisons la chose suivante. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez. Comment ? À la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et en effet, les Israélites devaient manger l'agneau, l'agneau qui avait été immolé, mais l'agneau aussi qui a été rôti. Et on devait le manger avec bien des pains sans levain, avec des herbes amères. On le devait manger bien rôti. Mais on devait surtout le manger, et c'est là où je veux attirer votre attention, on devait le manger à la hâte, les reins sains, et quelque part être prêt à partir, prêt à bondir. Et il y a dans ce détail un message pour toi, mon ami. Toi qui peut-être ne connaîtrais pas le Seigneur. Dieu est en train de te dire, au travers de ce verset, hâte-toi de sortir de l'esclavage du péché. Hâte-toi de te réfugier dans les bras d'amour de Dieu. Hâte-toi, je t'en supplie, d'accepter le salut, mais aussi la délivrance et également la protection que Dieu t'offre en Jésus, son Fils. Car vois-tu, Dieu t'aime et il désire te sauver aujourd'hui même. Oui, il t'aime. Et il voudrait bien pleinement entrer dans ton cœur, appliquer le sang de son Fils. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est une image. C'est sur le plan spirituel qu'il faut le comprendre. Si le sang de Jésus purifie ton cœur, tu seras blanc comme neige, tu seras transformé. Et mieux encore, tu pourras être introduit dans cette vie éternelle que Dieu offre à tous ceux et celles qui placeraient foi en lui. Je voudrais conclure en disant que la fête de la Pâque fut pour le peuple d'Israël véritablement le triomphe de la liberté sur l'esclavage. Ce jour-là, cette nuit-là, en tout cas, des millions de personnes, adultes, enfants, nourrissons, sont sortis libres après plusieurs siècles de souffrance et de misère au pays d'Égypte. Et comprenons cette nuit-là, les enfants d'Israël quittèrent certainement l'Égypte en chantant des cantiques, en pleurant pour certains, se frottant les yeux, pensant que c'était un rêve. Non, c'était une réalité. Certainement étaient-ils en train de se réjouir, de jubiler, et ils avaient raison. De même pour nous, un chrétien de ce 21e siècle, la fête de la Pâque est source de joie. Pourquoi ? Bien parce que Jésus, notre Pâque, nous a délivrés du péché et nous a délivrés de la mort. La fête de la Pâque, pour nous chrétiens, symbolise aussi le triomphe de la vie sur la mort. Car certes, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais le troisième jour après sa mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Ce fut un dimanche béni, ce fut un dimanche, alléluia, un dimanche de Pâques que Jésus ressuscita d'entre les morts et qu'il laissa derrière lui un tombeau vide. En effet, la Bible dit qu'un ange du ciel roula la pierre et l'Esprit de Dieu ressuscita Christ d'entre les morts. Et voyez-vous, quelque part, la résurrection de Jésus est pour nous, chrétiens, synonyme d'espérance et de consolation. Car nous aussi, vous savez, si Jésus tarde à revenir et que nous ayons le temps ici-bas de mourir, nous savons une chose et c'est notre espérance. Nous ressusciterons d'entre les morts avec un corps glorieux. Et alors, nous demeurerons éternellement avec Jésus, notre Maître. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse par ces paroles et je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Pâques sous le doux regard du Seigneur en réalisant tout ce que nous venons de partager. Je vous encourage même à relire tout le chapitre 12 du livre d'Exode. Toutes ces choses étaient une annonciation, une préfiguration de ce qui a été bien plus tard au travers de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. À bientôt.